Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Vous en avez dit oui, comté?
Ah non, ni. Mais et où que tu l'enseignes?
Bah, au bourg.
Ah bah, dis donc, je l'arrive pas au creux.
Ah bah, faudrait que ça serait seul.
Bonjour à Tertou. Bienvenue dans votre évaillerie en gallo. Vous en avez dit oui, comté, dans la souhaite Kerwese, gallo en Côte d'Ao, sur Bretagne 5. En tour de Houchouéané, Yvette Le Collinet, de Cosequeille.
Alors, salut à Tertou, je suis bien contente de vous retrouver. Je vais causer un nez des odeurs de notre jeunesse et de l'histoire des bistrots à travers les Auges.
Et Annie Guinard.
Bonjour à Tertou, moi je suis bonheureuse et tout de nous retrouver. J'avoue compter une petite histoire, l'oreille et la marguerite, qui est tirée du monde de Léo et après, j'irai à Radio Lavoir pour les potagnes du coin.
Yvette Le Collinet, Tataille.
Les odeurs de notre jeunesse. Parsez-nous. Pour causer des bonnes odeurs ou des mauvaises, j'avons plusieurs mots. On dit le senti, le sentiment, les centours, le rafouin, les vents. Quand on y songe ardibain, il remonte dans notre chouchot les odeurs de notre enfance et notre souvenance se met en branle. Le sentiment, l'odorat, est au goût ce que la veuve est à la biterie, à la pavessonnerie. J'allons commencer par les odeurs de ces ma grand-mère Philomène. Y elle était une vraie cuisinière. Souvent, on la marmite pour la poteille ou on le gaufferoué dans le fouillé pour les bonnes gaufres. Ça sentait là avant qu'on en entrait dans la hauté. Sur le fourneau, à bouée, on mitonnait le ragoût ou le civet de la peigne ou court la langue de bœuf, ça se madère. Et l'odeur des quatre quarts bain doré et des madeleines qui sortaient du four. On s'en rappelle court du sentiment-là. J'ai souvenance de mes mères astiquant son élongée de presse. Il y en avait plein le fond de la hauteur. Ça sentait bon l'encaustique. On l'aimait tant que sa berluse. On bouchonnait ses affiches du miroir. Ça avait un sentiment spécial, ça nous montait au nez. Quand on ouvrait les armoires, ça sentait la boulamite et tout la lavande. Je me rappelle court des sentiments de la bueille dans la lessiveuse quand on l'avait bouillue. D'autres odeurs restent aussi de nos aïeux. Il y a le tabac à pipe de mon grand-père. Il n'y en a plus du pareil à ce tour-ci. Il y a et tout l'odeur de la chimpette de tonton Arsène, très reconnaissable. Il avait le nez tout jaune tellement qu'il prisait. Pour mes mères, sur sa table de toilette, ça sentait la brillantine rouge à flore ou la savonnette cadom. À ce tour-ci, quand je vaille des giroflées dans des parterres, c'est quand mon chouchou qui se met en branle, je me rappelle que les giroflées poussaient toutes saoules sur le mur devant chez mes grands-parents. Dans le cellier de mon grand-père, quand on allait à la chambre pleure tirer une briquet de cidre, il y avait une odeur de moisie, de rance, de goût, tout ça était mêlé. Dans son atelier, ça sentait les ferluches, la sure de bouée, le goudron. Pépère faisait des berouettes. Si on s'aventurait avec ces petites bêtes, on en prenait plein les nosilles. L'odeur des muses à la peigne, le sentiment de l'écurie du cheval comique, l'odeur de la poisson pour les pourciots, du jean haché dans la mécanique pour soigner le cheval. On ne peut pas oublier tout ça. Je pourrais encore causer des odeurs de la pilerie, de la batterie, et surtout des bottes de fine qu'on entassait dans le solier. Quel plaisir ce sentiment-là. Cours des sentiments qui me reviennent, dans l'embauche et mes mères, les odeurs de baratte, de lait ribot, de coille, des belles mottes de beurre, des corilles. Ce qui reste et tout dans un coin de notre tête, ce sont aussi les odeurs de boudinerie, de boutiquerie de potes et de boudin, de saucisses, toutes les épices. Et le petit pâté qu'on goûtait en sortant du four, tout chaud. Une goulaillerie, ça ne peut pas s'oublier, c'est ancré dans notre tête. Dès que je suis dénoché, que notre confinement est à peu près clos, Maille, je sais aller me promener dans les bois pour me vider la tête. Et ai ressenti les odeurs de potiron, de champignons, de pommes de pin, de feuilles mortes. J'ai enfourché mon vélo pour sentir le fin fauché dans les prés, senti l'épine blanche, le lilas, le chèvrefeuille. Rien de plus apaisant et bien tranquille pour y retrouver le moral. Et voilà le bout.
Merci Yvette Le Collinet. Annie Guinard est à Teille.
Ben donc, là, non, l'oreille et la marguerite. Un jeune oreille égoyé sa foudre sur toute la terre pour coger tout son monde. À chacune de ses colères, les hommes se broussaillent dans les ébrailles au plus près. Les bêtes se tutaillent dans les rochers les plus rassurants. La poudre meurait partout. Il n'y a eu qu'à vingt des rails, des racines qu'à. Les arbres, les plantes, devinrent pliées sous le pays de sa colère rouge. Ses pieurs enragés, foyaient le peuple vert, esclave de ses féleries, qui mena un grand drap. À Luc a osé défier sa force émaillante, il détaumait des griffes de feu qu'étchissaient les pieds de bois les plus voyants. Il arrivit même qu'un fameux sapin fut échalé du haut dit combat pour y avoir manqué de respect. Pas personne ne connaissait le pourtier du delà qui cheyait du ciel, et païen qu'aurait voulu aller se frotter à sa réponse grandilleuse. Les tchocs folas au cœur l'effrontise de se poser la question furent balayés par des ventailles des plus mauvaises jamais veuses. Un pareil grand ours allait pas mal y être déchaumé dans ses colères les plus enragées. Quand même que la foudre cheyait au hasard, le monde savait bien que là n'arrivait jamais de faille au même endroit. Pas personne donc ne sait le pour qui. Mais elle a été de même de pays toujours. À Chibon et tout, du moment que le monde s'avoutaille devant l'oreille et disaille des peurières en masse quand que le feu s'ébattait. Un jour, l'oreille fut toute ébobie de verre qu'une douce et faillie marguerite avait demeuré toute tranquille après son dernier avertissement. Là était ben la première faille de sa souvenance d'oreille. Il meurit tout bugau un bout de temps devant l'effronté biaouté, qui faisait pas seulement mine de l'avoir révisé. On était pitché là, à ses pieds. On se derçait de toute sa tige, et n'avait pas mouvé yon de ses pétales. Toutes ses failles étaient la rallonge de elle-même, de sa vie. Chacune comme une fille toute saoule, mais qui te sent respectant toute. Tout un amour à l'atout des foudres. Mais l'orage ne comprenait rien des sentiments. Il songit que voyait ventier dur, alors il se mit à tonner comme jamais. La deuxième tossée s'est battue. Rien, aucune réaction. Sia, à la marguerite rigolait aux tous ses pétales. Ce qu'au centre disant, il semblait bien plus conséquent et précieux que l'out embarras, qui faisait tout pour que la réouie. L'orage n'en crut pas ses nuages. À tout coup, il y avait une explique. Si on voyait pas, ou ventier qu'on ne veillait qu'à maintier. Il se bouffit comme jamais pour lancer sa colère une treizième faille, au même endroit. Toute la planète fut aveuglée durant un bout de temps, et eau tremblait sous le feu qui échalait le ventre de la terre. Mais la marguerite et ses fidèles pétales éteignent toujours joie et légère. Quand il évisit la fonceur du pertu creusé, l'oreille comprend qu'il avait ouvragé à peine de rein. Tchic était donc le secret de la fieur. Pour Tchic, les pétales chérissaient et loumèrent sans décesser. Il regardit de plus près et il les visit quelque chose qu'il surprend hardi. À Tchic centimètre sous la marguerite, il vit un fil tout menu qui descendit. Il songit donc que la fleur pernait sa force plus bas dans la terre. L'oreille voulut s'avère au tisque qu'elle était rabouteille. Il lancit corps sa foudre le plus possible. Le pertu devint une massacre de houle et le fit dévaler toujours plus bas. L'oreille s'éclit à la tâche. Le secret le menait toujours. Et au bout de 8 jours, il rentrit à son tour dans la pensée qu'il avait bâtie. De mesure, il se trouvait à des centaines de mètres sous terre. Il enrageait. Oyou que pouvait donc mener le sacrifice là. L'oreille travaillit durant des kilomètres, sans faillir, malgré le chaos étouffant. Il était rendu su fond à ce tour-ci que plus personne ne voyait plus le bruit de sa colère folle. Maintien, semaine plus tard, y comprit que le secret de la fleur était une énorme boule de feu, bien plus grande que lui, et on l'était la mis à la Marguerite. Dans une dernière colère, l'oreille jetit corps un coup de foudre. Mais quand il se vit failli devant la lave en fusion, il se mit à rire si fort qu'il se trouvit enterré dans son propre pertu, sans aucun pouvoir de pouvoir jamais remonter. Sa colère et sa méfiance l'avaient mené à sa perte. Il comprit avant que Terbelie que le fils tout menu de la Marguerite avait non une raie, une racine, une raie qui s'enfonçait aussi fond que la plante avait aimé toute sa vie, sans jamais abandonner ce sentiment. Chacun avait sa raie qui le raboutait à la terre. Les graines d'avenir étaient remises au vent de payer les commencements. Et la Marguerite, tous les pays ne faisant qu'un pour elle, sans ses parties. Sa donaison entière à ses pétales en faisait une fleur qui ne pouvait point mourir. Tous les mains y avaient du respect pour elle. L'orage avait tout comme fini par comprendre que ses colères ne menaillent à rien, qu'il était une part d'un ensemble et qu'il ne pourrait pas toujours avoir le dessus ou la force et l'emportement. Y compris et tout que la bonté et la raison émenaient bien plus au respect. Et que le bonheur était Tchekfaï mussé dans une poignée de rire pour Yahu qui voulait ben écrire. Voilà le bout. Tato.
Merci Annie Guinard. Faites bain sur Bretagne 5 dans une bouteille de temps. Yvette Le Collinet de retour. Diliola Xunqueti, l'orage. Vête bain sur Bretagne 5, Yvette Le Collinet est à Taille.
Je vais vous causer l'histoire des bistrots à travers les Auges. Et vers 1814, à la fin du règne de Napoléon, qu'on commençait à oui mention du mot bistrot. Les Cosaques russes eut chagne, qui n'avait saigne et réclamait vitement bistrot, bistrot, qui veut dire vite en russe. Et de même que là est parti. Dans les grandes villes, et surtout à Paris, Ça s'éblouissait hardi sur les grands boulevards. Yaza indiqua 11 500 bistrots et cafés dans la capitale. On y vendait du mauvais vin et du torbouillaou. Avant, on causait plutôt de cabarets, trottiers, des André et You que se rassemblaient les poètes, les artistes, les peintureux, surtout dans le quartier de la butte Montmartre, était le mi-temps du monde à l'époque-là. Renoir, Pissarro, Cézanne et aussi Ravel, Zola venaient s'y retrouver, se ramousseler et surtout boire de l'absinthe et refaire le monde. Le bistrot des impressionnistes est toujours choumé année sur la butte Montmartre. Dans les faubourgs et au bord de la Seine et de la Marne, on veillait se monter des djinjettes, était le café de la douceur de vivre. On dansait, on jouait bien au jeu, choc-faille, ça tournait en tripot ou bordel. À la fin du 19e siècle, les bistrotiers parisiens sont d'origine d'Auvergne. On les nomme les bougnats. L'ouvrage manque dans les campagnes et les jeunes montent à la capitale. Ils y font plusieurs boulots. Ils sont marchands de bois, de charbon. Ils tiennent des débits de baisson. Ils se placent auprès des usines pour attirer les ouvriers et des gares et tout. Et you qui hardit de passage. Et au moment là aussi que le quartier de Montmartre avait hardi de Berton, choquins sont mis au roule des bistrots et des cabarets. Le commerce de la vente de boissons ou de l'alcool fut codifié par des licences dans le temps-là. Dans nos campagnes, je crois que les premiers cafés se sont ouverts dans les bourgs parce que le dimanche, le monde venait à la messe ou écoutait les bannis et hardi resta éveillé. Alors, au lieu de s'en retourner ses yeux, ils apportaient le mousette et cassaient la croûte et buvaient un petit rouge ou un mic. C'est les premiers commerçants. Et pour elle là que c'est marqué sur la porte, reçoit avec provision, v'là. C'est ventier une menterie, mais je crois que ça a démarré de même. Il y avait le bistrot forgeron, le bistrot cordonnier, le bistrot marchand de soleil, le bistrot bourrelier. Dans les années 60, les paroissiens changeaient tous les dimanches. Fallait tout comme faire valagne un petit tout le monde. Le café, le bistrot et la salle de conseil du peuple, que disait Balzac. À ce tour-ci est vrai que le bistrot est le point de ralliement. De ramari pour hardi de monde. Il y a les habitués retraités qui retrouvent l'oucoterie tous les jours pour jouer cartes et boules. Et les jeunes donc, ils ne se retrouvent-ils pas dans la rue Saint-Michel tous les jeudis au Saï à Rennes? Et il y a bien au jeu dans les bistrots. Ça fait le monde, ça rigole, ça picole. Il y en a pour tous les goûts pour avoir des nouvelles pratiques, des nouveaux clients. Faut se distinguer. On trouve des bistrots tricots, des bistrots interroges, des cafés poésie, des cafés bibliothèques, des bistrots de l'histoire. À Paris, le café de Flore, la closerie des Lilas sont des André et Youk les philosophes devisent et instructionnent le monde. Il n'y a pas à dire, les bistrots, les cafés donnent de la vie dans les petits pailles. Sans elle là, les bourgs seraient défuntés. Tant que les cyclos, les courroux à pied, les footballous s'y retrouveront, ils seront tout banaises. Il y aura du lien social. Dans les massacres de villes ou l'oukajibi de logement, heureusement qu'il y a des bistrots que les amoureux s'entendent retrouver, qui se donnent des rendez-vous, que les retraités se racontent leur misère et parlent de l'ougène temps qui était hardi mieux qu'à ce tour. Il n'y a plus que 35 000 bistrots en France. Faut continuer à les faire vivre, avec tempérance bien sûr, modération comme on dit à ce tour-ci, et espérons que malgré le Covid, tous les bistrots tiennent le choc parce que c'est pas si facile que ça pour eux tous les jours. Et v'là le bout.
Merci Yvette Le Collinet. Vette bain sur Bretagne 5, dans une bout de temps, Annie Guinard de retour.
Thank you. façon de nous appeler ses gosses. On voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Laurette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette quand on faisait la fête. Elle venait vers nous, Laurette. C'était bien, c'était chouette quand on était fauchés. Encore afin qu'on soit tranquille, dans son café il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien chez Laurette. On y retournera pour ne pas l'oublier, Laurette. Ce sera bien.
C'était Michel Delpech chez Laurette. Annie Guinard est à Teille.
Radio Lavoir, parce que je vais vous conter d'une équerouée qui se disait tout probable dans les années 1930 au Douai à Langourla, petite commune du Méné. J'ai pris le conte là dans le livre Ressac à l'écrivain Raymond Lécuyer, qui était né dans le Païla en 1924. Est un livre vrai plaisant, au lieu qui raconte ses jeunes années, perchin de sa grand-mère Pauline et son grand-père Émile. Va ici, comme elle avait batte de la goule, entour du Douai à Langourla, dans les jours-là. Va-t-il oui dire que le bonhomme Émile a zaïma à son genou. Paraît-il qu'il a zaï de liaou dedans. Il ne pouvait plus bauger. Oh, je sais sur prince le tempérament qu'il a. Vers, mais le docteur, il le kneu autant comme taille. Eh ben, il avait posé un petit plot, juste pour l'en aider, qu'il n'aurait pas été à saigner les poursières où c'est le monde. Mais la peine fut perdue, bien sûr, au deuxième bonhomme qui vint lui demander d'aller tuer le pourcet, le père Émile, il n'est plus en pièce. Il prend ses bêtilles et sa boîte à couchaou et il s'en fut égorger la bête. Du coup, le mal de genou partit de plus belle et il devait bien rappeler le docteur en ramponnant tant qu'il pouvait. Mais le docteur, il voyait bien clair et en plus de là, la coiffe à Émile, la Pauline, on les visit sitôt qu'il est rivi sous le ciel lu. Il regardit le jeuneux, qui était tout gonfieux, aux une mine ébahie. Il paraît qu'il dodinait de la bobine en disant de même « Mon pauvre Émile, je vais être forcé de vous plâtrer de te payer le haut dit Groba. » Et sans plus étendre, il y fit un plat qui était si gros et si lourd que le père Émile, il de bain meuré et longé, sans pouvoir bouger la tchette. Mais le pauvre docteur, il ne sait pas encore assez le bonhomme. Le permier qui lui demandit, il refusit. Au deuxième, il ringit. Et il se dit que quand t'es un bêtis, il pouvait bien marcher rien qu'à une tchette. À la troisième personne qui lui demandit, il se décidit. Il mit ses ânes et trotte Émile le pourcet étant. Mais valait vert qu'il n'y avait pas que le pourcet qui l'étendait. Le père Émile s'en fut au bain du deux à travers les bons chemins. Il fit 4 kilomètres. Avant que d'arriver, c'est le monde-là. Le pourcel, lui, était pas trop gêné de le faire arriver, mais le fermier, sia. Il paraît que le client-là était pas trop fin, ni trop regardant. Au dernier moment, il s'est visé qu'il maintient un pied au banc, au lieu qu'il devait saigner le pourcel. Émile, lui, se bat, il compte pas son temps ni sa peine. Il sautit sur une patte d'icotant de fagot, il réussit vitement une trique, ben drette et ben durte. Il donnit tchoukou de haïche et il en fit un pied bien solide. Il ne restait plus qu'à pointer le pied dans le banc. Il m'en dit au patron de la ferme de l'Iaïdé. Le bonhomme Émile tenait le pied, là où Tsebrivi, au Enmas, il visit le chieux du pitchet, mais n'est pas sur le pitchet que cheillit la masse, mais sur l'avant-bras du père Émile. Le pauvre bonhomme eut chi et ses bras de daille et de rage contre le pauvre innocent qui était adré, comme disait mon père, comme un pourcé au satieuil, en plus que d'être bête comme un bardeau. N'était plus mention de ramorer le banc, bien sûr, encore moins d'assauter le pourcé, bien sûr, qu'avait gagné un tour, du coup. Tout chaud et sans étendre, Émile s'en vint s'élu comme il était venu et par la même sente. Il était rendu à mi-chemin quand un auto le dépassit et s'arrêtit sitôt. Tout est bobby, les bras lui enchaînent. Le docteur regardait venir le pauvre bonhomme, les crocs serrés et la goule toute défaite par le mât. Ah, mais va être pire que le job, père Émile, cheminé à une tchette dans le plat, tout comme. Oh, là n'est rien que de la tchette, que dit Émile, si j'aurais pas encore le bras cassé. V'là le bout, ma pauvre bonhomme, et comme dirait du monde que j'avais un bain avec neuil, Daniel Jourdonon le huchoué. Ici, la Radio Lavoir, et à vous, Bretagne 5. À tantôt.
Bravo. Pour ces... Merci, Annie Guinard. Votre évaillerie est aboutée. En remerciant Éprichou et puis notre faisou, Frédéric Guillon. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur bretagne5.fr. À vrai bientôt sur Bretagne 5.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.